nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Les adjuvants dans les vaccins suscitent depuis maintenant plusieurs années la peur des Français. Alors cette peur est-elle fondée? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission Focus. Dernièrement, l'adjuvant utilisé dans le vaccin contre la grippe H1N1 a fait polémique et il refait parler de lui pour une nouvelle actualité, l'utilisation de l'aluminium comme adjuvant dans certains vaccins. Une polémique qui fait suite à un ouvrage sorti en septembre 2010 et dont le titre est anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire, « Quand l'aluminium nous empoisonne », publié par la journaliste Virginie Bell. Alors au cours de cette émission Focus, nous parlerons de l'utilisation des sels d'aluminium dans les vaccins, mais également d'autres adjuvants. Et pour répondre à nos questions, Pierre Béguet est avec nous au studio de Canal Académie. Pierre Béguet, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Je précise à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite de pédiatrie à la faculté de médecine de l'hôpital Saint-Antoine, que vous êtes infectiologue et ancien président du comité de vaccination. Et vous parlez, je précise, au nom de l'Académie nationale de médecine, puisque vous êtes membre de cette académie. Alors, commençons très simplement, Pierre Béguet. Une question simple, qu'est-ce qu'un adjuvant et à quoi ça sert?
Alors, un adjuvant, comme son nom l'indique, est un supplément que l'on ajoute à un produit. Là, c'est le vaccin dont nous parlons aujourd'hui. Il vient du latin, adjuvare, aider. Il aide. Il aide finalement à l'action du vaccin. C'est un produit qui n'a rien à voir avec le vaccin, mais qui est nécessaire pour que le vaccin soit vraiment efficace.
Alors, c'est un adjuvant. L'adjuvant est utilisé, je crois, depuis 1926. Donc, c'est assez ancien, son utilisation.
C'est très ancien. 1926, je vais vous expliquer la date. Elle correspond aux travaux de découverte de l'anatoxine du vaccin, du tétanos et également d'ailleurs de la diphtérie. 1923, c'est Ramon, le pastorien, qui a découvert ces deux vaccins. Alors, bien entendu, on a testé les vaccins seuls, tels qu'ils étaient, l'anatoxine pure. Et on s'est aperçu que certes les anticorps montaient, mais qu'ils diminuaient très rapidement, et que finalement, il fallait répéter les injections, et même en répétant les injections, l'effet rappel n'était pas obtenu et on ne protégeait pas réellement. Poser la question, comment peut-on augmenter la réaction immunitaire et la prolonger? Et on a testé tout un tas de produits, car il y a énormément de produits. Il ne faut pas oublier tout de même que l'école pasteurienne de l'époque était déjà très avancée en recherche sur l'immunologie. Je peux citer Menchnikov, par exemple, sur les travaux d'immunologie. Et nos aînés avaient l'habitude tout de même de manipuler des produits chez l'animal, expérimentalement, et chez l'homme, pour améliorer les résultats. Alors, ils ont trouvé que, parmi tous les produits qu'ils utilisaient à l'époque, c'était l'aluminium sous forme d'un sel, donc on peut l'hydroxyde ou le phosphate, qui donnait des résultats tout à fait différents. Alors, il y a des courbes très célèbres, publiées en 1927, effectivement, où l'on voit les petits anticorps après le vaccin antitétanique qui montent et qui descendent très vite. Et alors, avec l'aluminium, les anticorps montent très haut et se prolongent de nombreuses mois, voire années. Voilà, c'est ce que l'on voulait obtenir. Et on a donc commencé avec ces vaccins. On peut se demander pourquoi d'ailleurs un vaccin ne fonctionne pas tout seul. Parce que quand une protéine... La protéine, finalement, les premiers vaccins, les premières protéines fabriquées, étaient d'une très grande pureté. Une anatoxine, c'est une protéine très très pure. Chimiquement, elle n'a pas une très grande action au point de vue antigénique, c'est-à-dire au point de vue force de stimulation de l'immunité. Alors que si on prend la typhoïde, le vaccin de la typhoïde, qui à l'époque était une suspension de bacilles tuées, c'est énorme sur le plan microbiologique. Oh, les bacilles seules se suffisaient, n'avaient pas besoin d'un adjuvant. Vous voyez la différence. Donc déjà, on est parti avec même en 1923, avec quelque chose de tellement purifié que l'action immunitaire était décevante.
Mais alors, selon les virus, on a besoin ou pas d'un adjuvant?
Absolument. Alors, on rentre dans un deuxième sujet. Bon, il y a beaucoup d'adjuvants. Il y a des adjuvants extrêmement puissants. Il y en a un qui est très célèbre, de la même époque, 1937, l'adjuvant de Freund. L'adjuvant de Freund, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est une émulsion dans l'huile de mycobactéries tuées. C'est un truc qui donne des réponses immunitaires fantastiques, mais des réactions locales très fortes. Bon, donc on a tout testé. Et au fur et à mesure des années, les vaccins sont apparus les uns après les autres. On s'est aperçu, par exemple, que lorsque ce sont des virus, comme le virus de la rougeole ou le virus de la rubéole, qui sont des vaccins, parce que ce sont des virus modifiés, et bien sûr, ils ne donnent pas de maladie, ou pas de maladie grave, ce sont des virus vivants. Finalement, comme ce sont d'assez grosses molécules et des corpuscules très très diversifiés, en eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'adjuvants, parce qu'en eux-mêmes, ils vont déclencher les signaux immunitaires habituels de la maladie. Voilà. Quand nous arrivons dans nos époques où on prend une portion de virus, par exemple l'hépatite B, l'hépatite B, quand les gens disent « on vaccine, on veut attraper l'hépatite B », ça n'a pas de sens, puisque c'est l'enveloppe du virus, c'est la découverte de MOPA, ensuite c'est la découverte du génie génétique qui a été faite à Pasteur, etc. Donc on sait que c'est un produit extrêmement précis, purifié, qui en soi, bon, ne peut pas transmettre l'hépatite, mais effectivement, l'immunité par le vaccin seul serait insuffisante et on est obligé de mettre un adjuvant. Aujourd'hui, on fait des vaccins extrêmement corpusculaires, on en prend un fragment, c'est extrêmement précis. Je parle des papillomavirus, par exemple, vaccins du cancer du col, dont on parle beaucoup, les vaccins modernes de la coqueluche, qui sont des fragments, ont besoin, pour être des vaccins, d'être adjuvés, pour être des vaccins, parce que sinon, ce n'est pas des vaccins. C'est un produit inefficace. On ne va pas vacciner, piquer des milliers d'enfants, des adultes, avec un produit inefficace. Donc, on a besoin d'un adjuvant.
Alors, ces adjuvants font souvent parler d'eux. Il y a une suspicion quand même, hein, régulière sur ces adjuvants. Est-ce que cet adjuvant reste dans le corps ou est-ce qu'il est évacué petit à petit par les voies urinaires notamment ?
Effectivement, alors l'adjuvant dont nous parlons, c'est l'aluminium. Mais il y en a des centaines d'autres. Et si on vous le voulez bien, tout à l'heure, on donnera quelques noms d'adjuvants à l'étude, ou il y en a même un qui est autorisé en médecine humaine, et d'autres vont être autorisés probablement. Mais là, on parle de l'aluminium. Donc, on a toujours eu peur de l'aluminium, parce qu'il est vrai qu'on a eu des lésions cérébrales par intoxication massive à l'aluminium dans des domaines très particuliers. Je parle par exemple des hémodialysés à une époque, ce qui a entraîné une réglementation, bien entendu, des bains d'hémodialyse, chez des insuffisants rénaux quand même, qui eux-mêmes peuvent avoir des lésions dégénératives sans aluminium. On a aussi incriminé l'aluminium dans la maladie d'Alzheimer, de multiples travaux. Et jusqu'à présent,
pas de
démonstration et même un recul, d'après les neurobiologistes, sur la responsabilité. Donc, peut-être cofacteur, mais probablement pas facteur premier. En tout cas, il y a toujours eu, sur l'aluminium, énormément de discussions, qui ont abouti d'ailleurs à un excellent rapport de l'Institut de la veille sanitaire début des années 2000, qui doit avoir 4 ou 5 ans, où tout a été envisagé, toutes les études. Il y a eu une étude sur l'eau, l'aluminium dans l'eau. Il y avait eu des craintes à une époque avec une étude, puis en fait, on s'est aperçu qu'elle n'était pas fondée, à condition bien entendu que le traitement de l'eau soit respecté, que des concentrations minimales soient respectées. Ce sont des recommandations de l'OMS. Il y a quand même des respects dans l'eau de boisson, car on a quand même de l'eau de boisson avec de l'aluminium. Il y a des bains. L'eau est purifiée en passant à travers des bains et des récipients d'alumine. Donc il faut quand même le savoir. Mais tout ça est surcontrôlé de façon à ce qu'il n'y ait pas de toxicité. Donc tout ça a été défini. Mais il y a toujours eu cette crainte. Et alors la crainte vis-à-vis des vaccins n'a jamais vraiment existé jusqu'à ces toutes dernières années. Il y a deux dates qu'il faut retenir. La première, mais qui n'a pas suscité du tout dans le public de crainte, c'est la publication par une équipe de Créteil, de l'hôpital Henri Mondor, une équipe d'anatomopathologistes et de neurobiologistes, publication d'une maladie, la myofasciite à macrophage, qui constatait en 1998 pour la première fois, au point d'injection du vaccin chez des personnes qui se plaignaient de douleurs. Donc des personnes viennent pour des douleurs, sont adressées aux anatomopathologistes pour biopsie et se plaignent depuis qu'ils ont été vaccinés. Il faut dire que ça coïncidait surtout avec l'hépatite B d'ailleurs à l'époque, essentiellement. Après on a trouvé d'autres vaccins, mais primitivement c'était surtout le vaccin de l'hépatite B. Donc on fait la biopsie au point de l'injection du vaccin et on y trouve, chez ce type de malade qui avait des douleurs chroniques, des lésions à type de macrophage, d'infiltration, de macrophage dans le muscle. Macrophage très particulier, on abrège bien entendu, après on prouve que dedans il y a des petits cristaux d'aluminium, de phosphate d'aluminium. Ça, ce sont les travaux de 1998. La crainte n'est pas passée dans le public, elle est venue l'année dernière. Elle est venue en 2009 en raison de la vaccination contre la grippe pandémique. Est-ce que les gens n'ont peut-être pas bien dit, ils l'ont dit mais ça n'a pas été bien écouté, c'est que le vaccin de la grippe fait partie de ces vaccins où l'aluminium ne donne pas grand-chose. Il ne donne même rien. Ce n'est pas le bon adjuvant. Donc on a toujours cherché pour le vaccin de la grippe influenza, comme pour d'autres vaccins d'ailleurs, en particulier le vaccin papillomavirus aussi, d'autres adjuvants. Donc si vous voulez, des autres adjuvants, on en reparlera tout à l'heure en recherche. Mais pour le vaccin de la grippe, il fallait faire vite. Et ce qu'on n'a pas dit non plus très bien dans les médias, c'est qu'il existait depuis des années un vaccin qui avait l'autorisation AMM de l'Europe, etc., qui s'appelait le Safeguard. Il y avait déjà des milliers de personnes vaccinées, où il y avait un adjuvant nouveau, tiré du squalène, dont on dira un petit mot tout à l'heure. Et il était tout à fait connu, et il permettait justement, chez les personnes vaccinées âgées, d'avoir une immunité importante et durable. Parce que si vous vaccinez contre la grippe avec le vaccin sans adjuvant, vous êtes protégé pendant quelques semaines ou mois.
Or, pour la pandémie, il fallait une protection beaucoup plus...
Absolument. Et imaginez qu'en plus, ce fût une pandémie clinique, qu'elle ait une deuxième vague. Il aurait fallu imaginer que le vaccin ne marche pas, ou suffisamment. Il aurait fallu revacciner, ce qui était impossible. Donc, il fallait un adjuvant de qualité. Et cet adjuvant, le squalène, on le connaissait par le Safeguard. Il est dans le dictionnaire Vidal. Tout le monde peut le trouver. Il est recommandé pour les sujets âgés. Voilà. Donc, on travaille sur ces adjuvants, justement, pour prolonger l'immunité. Il y a certains vaccins qui ne peuvent pas avoir un adjuvant aluminium.
Mais alors, vous voyez, des auditeurs qui auraient lu, peut-être, qui se seraient procuré le livre de cette dame qui s'appelle Virginie Bell, qui est journaliste, qui a publié ce livre sur l'aluminium qui nous empoisonne. C'est le titre de cet ouvrage. Lorsqu'ils vous écoutent, pourraient se dire, eh bien oui, on n'a pas utilisé d'aluminium parce que, justement, il est peut-être dangereux. Vous voyez, ça peut peut-être Absolument. Accréditer les formulations
de Votre remarque
personne.
Est très juste. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la suite de ces travaux, cette équipe de Créteil a continué à travailler et pour expliquer ces douleurs, cette fatigue chronique. Une étude a été faite, de ce fait, encouragée par ces travaux, au niveau de l'AFSAPS. Étude en 2003, qui a été pilotée hors de cette équipe, tout à fait scientifiquement, avec des cas contrôles, des cas témoins plutôt. Et on a conclu que, bien entendu, les lésions étaient très spécifiques, et tout le monde en est d'accord. Des lésions très spécifiques de myofasciite, qui sont probablement un peu la trace chez certains malades prédisposés génétiquement, qui gardent longtemps cette myofasciite et cet aluminium, c'est à la trace de la vaccination, mais qui est tout de même particulière.
Et qui concerne combien de personnes à peu près, juste pour avoir
alors,
une
bon,
idée.
La série de l'équipe de... Alors, c'est quelques centaines de malades, donc ce qui fait un risque par rapport aux vaccinés, tout au moins comme ça, de 1 sur 100 000, bah oui, par an. Donc c'est un risque qui est très très faible. Mais l'AFSAFS a conclu que les travaux ne permettaient pas du tout de relier les signes, qui sont quand même des signes assez banals, il faut le reconnaître, de douleur et surtout de fatigue chronique, avec les lésions de myofasciite. Ça, c'est la conclusion du conseil scientifique de l'AFSAPS du mois d'avril 2004. Voilà. Ainsi, l'équipe donc, a voulu, elle, continuer à démontrer quand même qu'il y avait un lien, malgré cette étude qui était négative. Et elle a travaillé pour voir s'il n'y avait pas une migration de l'aluminium dans le système. Alors, elle n'a pas travaillé sur le système, je dirais, articulatoire, mais s'est intéressée au système nerveux. Probablement, toujours dans cette optique, d'essayer d'aborder cette fatigue chronique un petit peu comme on le connaît dans certaines scléroses en plaques, des choses comme ça. Et ils ont émis l'hypothèse que des nanoparticules d'aluminium seraient véhiculées par les macrophages, qui sont des macrophages spéciaux, effectivement, mais ça on en reparlera, vers le système nerveux. Et que ça permettrait à cet aluminium de passer la barrière des méninges et d'arriver comme ça au système nerveux.
Et cette hypothèse a-t-elle été vérifiée ?
Alors, cette hypothèse n'a bien sûr pas été vérifiée, mais en 2009, ils ont rapporté un travail chez ces malades qui avaient des biopsies pathologiques, des myofasciites, comparant ces malades avec un lot témoin douloureux mais sans myofasciites, ils ont trouvé... Très peu, hein, il y a une 10-10 versus 15. Ils ont trouvé chez ces malades atteints de myofasciite des troubles cognitifs, avec des études très approfondies, psychologiques et neurologiques, des troubles cognitifs qui leur évoqueraient une atteinte due peut-être à l'aluminium. Alors évidemment, ce sont des hypothèses. Jusqu'à présent, il a été bien admis que l'aluminium que l'on injecte est éliminé extrêmement lentement. C'est le but de l'adjuvant. Rester longtemps dans le muscle de façon à stimuler le plus possible l'immunité et que cet aluminium petit à petit est éliminé, en général par voie urinaire. Et jusqu'à présent, il ne semble pas qu'on ait retrouvé de l'aluminium passant du muscle vers le sang. On n'en a pas retrouvé, ce n'est pas connu. Quand on évoque les nanoparticules, il est vrai qu'on est dans un autre domaine, nanobiologie, encore mal connu. Mais ce sont des hypothèses très graves, si vous voulez, en santé publique, parce qu'on est dans l'inconnu, on ne le prouve pas, et ça fait extrêmement peur. Ça fait peur parce que nous sommes à une période où on pense beaucoup à l'Alzheimer, on pense à des maladies dégénératives cérébrales, et on se dit que, vu le nombre de vaccins contenant cet aluminium et le nombre de sujets qui sont vaccinés dans le monde, ce serait une catastrophe. Vous voyez, on peut tout de suite construire quelque chose de paniquant pour le monde entier, parce que ce n'est pas français. On ne doit jamais s'y retrouver partout dans ce cas-là. Donc, pour le moment, cette hypothèse a été portée à la connaissance, semble-t-il, quelques journalistes, et montée comme une certitude.
On est passé d'une hypothèse à une affirmation.
À une affirmation.
Et vous dites, en fait, prudence,
voilà, prudence
dans la communication.
Alors, c'est ce que l'Académie de médecine, en particulier, a voulu tout de suite souligner, c'est que nous sommes très, très vigilants, l'Académie, aux informations de santé publique qui risquent de gêner la pratique médicale. Car imaginez que d'un jour à l'autre, les personnes alertées par les médias refusent de se faire vacciner ou de faire vacciner leur enfant. Il est évident que la couverture vaccinale s'effondre, comme on l'a déjà vu dans d'autres situations, et que les maladies, à la limite, peuvent réapparaître. Ce n'est pas de l'utopie. Le refus vaccinal, par exemple, je prends quelque chose de très loin de nous, dans les années 1990, après la chute de l'URSS, n'est-ce pas ? Il y a une libéralisation telle que les personnes ont refusé les vaccinations et la diphtérie est réapparue. Et on s'est retrouvé avec 250 000 cas de diphtérie et 5 000 décès, chiffre officiel de l'OMS, en quelques années. Il ne faut pas penser que c'est une vue de l'esprit. Donc on doit être très vigilant à tout ce qui touche à cette couverture vaccinale, au même titre qu'on est vigilant au risque des vaccins, bien entendu. Mais jusqu'à présent et depuis 1927, on n'a pas d'alerte sur l'aluminium. On peut reprocher de ne pas s'y être intéressé. Alors c'est faux. C'est faux parce qu'on s'y est intéressé, mais pas dans le sens de la toxicité. Et là, si vous me permettez, j'enclenche sur les autres adjuvants. Parce que la recherche dans l'industrie, on dit toujours que l'industrie ne fait pas... Non, ce n'est pas vrai du tout. Depuis toujours, depuis le début, l'industrie... Enfin, qu'on dit l'industrie parce que c'est eux qui fabriquent les vaccins. N'est-ce pas ? Ça ne se fait pas dans un petit laboratoire. C'est des niveaux très importants. L'industrie veut obtenir des vaccins d'abord bien acceptés. Et pour qu'un vaccin soit bien accepté, il faut qu'il ne fasse pas mal.
Or, donc c'est retirer, par exemple, cet adjuvant à partir d'aluminium qui fait mal.
Il fait mal chez 10% des gens, 10% des enfants. Il donne parfois des petites boules. Bon, si vous le faites en sous-cutané, ça donnait dans le temps des abcès. On ne fait plus de sous-cutané, on fait surtout de l'intramusculaire. On pourrait revenir au sous-cutané. Il n'est pas toujours très bien toléré. Quand vous travaillez sur des millions de doses, bon, ça peut... entraîner peut-être pas un refus, mais une réticence à la vaccination. Bon, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est plus sérieux, c'est que, je vous l'ai dit dès le début, il est important quand on fait un vaccin, que ce vaccin serve à quelque chose. S'il sert à quelque chose, c'est pour donner des anticorps valables, des bons anticorps, parce qu'on peut avoir des mauvais vaccins qui donnent des anticorps qui ne vous protègent pas. De bons anticorps et des anticorps qui durent. Et le troisième aspect, c'est qu'un bon adjuvant pourrait peut-être faire l'économie d'une injection de vaccin. Même de rappel. Bon, nous sommes très riches, alors qu'on nous fasse 3 vaccins et un rappel. Mais pour les pays qui sont moins riches, c'est un problème. Et ce n'est pas un problème parce qu'ils sont moins riches d'avoir le vaccin. C'est parce que lorsque vous proposez de faire en place à elle, ou même dans le fin fond d'un pays de la côte d'Afrique, je connais bien, 3 vaccins et un rappel, les gens viennent au premier, viennent moins au deuxième, ne viennent pas au troisième. Donc un vaccin qui aurait un bon adjuvant, bien toléré, et dont l'immunité serait encore supérieure et beaucoup plus prolongée, permettrait d'économiser le nombre d'injections. Donc pour toutes ces raisons, vous concevez très bien qu'il y a bien longtemps que l'industrie se penche. Et enfin, dernier point, c'est que certains vaccins, et les plus modernes, ne marchent plus très bien avec l'aluminium, seul, ou voilà. Donc il faut d'autres adjuvants. Ça, je pourrais vous en citer, qui sont actuellement, il y en a un dont on a beaucoup parlé l'année dernière avec la grippe, qui est accepté par les plus hautes autorités, qui est on va l'appeler le squalène, mais ce n'est pas tout à fait son nom, il a le nom de MF59. Ça fait longtemps parce que le premier vaccin avec squalène autorisé chez l'homme, c'est 1997. Donc il était quand même, en 2009, il était parfaitement connu. Et il est différent de l'aluminium. Ce que doivent comprendre aussi les gens, c'est qu'on ne peut pas toujours, on ne pourra pas toujours se contenter d'un adjuvant. Il n'y a pas un adjuvant miracle. Il y a des adjuvants et des vaccins. Et plus on fait de progrès dans les vaccins, plus on est obligé d'avoir dans son cartable, je dirais, des adjuvants différents qui vont convenir à ce vaccin et qui ne conviendraient pas à d'autres. Donc pour vous dire que cette recherche Il faut la stimuler davantage, parce que c'est vrai que c'est un besoin. Vous avez compris pourquoi. Ce n'est pas du tout pour la toxicité neurologique. Franchement, personne n'y a jamais pensé. Ce n'est pas pour la toxicité neurologique, mais c'est tout simplement pour la bonne conduite d'une vaccinologie moderne. Tout simplement. Donc, je ne vais pas vous lister. Je crois que ce serait ennuyeux pour nos auditeurs d'entendre tout ce qu'il y a dans les adjuvants actuels. Mais je peux quand même citer une ou deux choses. Bon, on a parlé des squalènes. Squalènes, c'est des émulsions, de l'huile dans l'eau, de l'eau dans l'huile. C'est particulier squalène parce que l'huile ressemble à ce que l'on retire du squale, enfin du requin. C'est un nom, à mon avis, maladroit parce que ça a fait terriblement peur l'année dernière. Les gens étaient affolés. Le mot d'adjuvant, personne ne le connaissait, personne n'en parlait depuis Ramon, depuis 1926, personne n'en parlait.
Le squalène, on en a beaucoup parlé.
Le squalène, on en parlait énormément. Ça a fait peur et on a été dire qu'il n'avait pas l'autorisation. Alors c'était tout à fait faux. Premièrement, ce squalène dont je vous parle pour la grippe, il avait son autorisation depuis longtemps. Et un autre, un MPL qui n'est pas un squalène, mais qu'on utilise actuellement pour le vaccin du cancer du col, il a aussi son autorisation. Donc, on les connaît. Qu'ils ne soient pas autorisés dans ce type de vaccin, bah oui, le vaccin, on a dû le faire très vite, on n'allait pas tester l'ensemble, sinon on n'en aurait même peut-être pas aujourd'hui. Ce que demande par contre, et ça, les gens ont tout à fait raison, ce que l'on demande quand même à l'industrie, c'est maintenant de tester leur vaccin et de tester les adjuvants séparément, au point de vue de tolérance et au point de vue résultat de toxique. Parce que, vous ne m'avez pas interrompu quand j'ai commencé en 1923-26, mais je vous ai dit, il y a une foule d'adjuvants qui ont été testés. Pourquoi on les a rejetés? En général, on les rejetait, si ce n'était pas bon, mais surtout pour la toxicité locale, la douleur, la fréquence des réactions, c'était insupportable. Donc, il est évident que ça aussi, ça rentre dans le souci de l'industrie, et ce n'est pas facile de trouver un adjuvant qui soit à la fois efficace immunologiquement, qui soit moderne, c'est-à-dire une immunologie moderne, une protection longue, etc., et d'autre part, qui soit vraiment très bien toléré. C'est vrai que jusqu'à présent, le mieux toléré, jusqu'au squalène, ça a été l'aluminium. Donc, il ne faut pas penser que l'industrie se dit « Oh, tant pis, on continue avec l'aluminium, c'est bien ». Non, c'est parce qu'il est difficile de trouver l'adjuvant idéal, hein.
Alors, on a bien compris toute la complexité de l'exploitation de ces adjuvants et que la recherche doit se poursuivre en ce sens. Dernière question, Pierre Béguet, puisqu'on arrive vraiment au terme de notre émission, donc vraiment en une minute, parallèlement à ces vaccins, il y a des vaccins homéopathiques qui se développent. Alors vous, votre avis d'infectiologue, est-ce qu'un vaccin homéopathique a la même valeur qu'un vaccin classique?
Écoutez, là, ça n'a plus rien à voir avec les adjuvants. Quand vous déposez un dossier de vaccin, comme tout autre médicament, il y a trois choses à fournir. D'abord, est-ce qu'il donne des anticorps? Deuxièmement, est-ce qu'il est efficace? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous protège? Et troisièmement, est-ce qu'il est bien toléré? C'est les trois éléments clés d'un dossier d'AMM depuis des années. Le vaccin homéopathique devrait apporter ces trois réponses. S'il n'y a pas d'anticorps obtenus, bon, il n'y a pas de protection espérée. Vous pouvez faire à ce moment-là des études cliniques. Quand même difficile de nos jours de faire des études cliniques avec un vaccin homéopathique, par exemple contre le tétanos ou la poliomyélite. On ne voit pas très bien, ou alors ce serait condamné d'être condamné très rapidement, de dire qu'un enfant est vacciné de façon homéopathique et d'attendre pour voir s'il a un tétanos. Bon, donc, non, tout ça, ça ne tient pas. Mais, et puis troisièmement, bien entendu, la toxicité. Bon, la toxicité, probablement, on l'espère, serait très faible. Les réactions seraient très très faibles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de reproche à faire, mais il faut
dire qu'il n'y a pas de contrôle, en fait.
Il faut qu'il y ait des preuves. Surtout que nous sommes quand même à l'époque, ça, il faut que les auditeurs, qui ne sont pas tout à fait au courant des AMM et tout ça, sachent que
AMM, autorisation de mise sur le marché, quand même, je précise.
Aujourd'hui, tout repose sur une médecine par les preuves. Hein, la politique actuelle américaine Obama, c'est au point de vue de médicaments, c'est d'avoir, bien entendu, les preuves, mais c'est la médecine par les preuves, et ensuite, quand le médicament est sur le marché, de continuer à surveiller si ce qu'on attendait de lui est bien prouvé. On continue. Il ne suffit pas de le mettre sur le marché, il faut le surveiller encore. Ça, ce n'est pas encore fait.
Ce qui n'est pas le cas des vaccins homéopathiques.
Ah bah, ils n'ont pas un dossier de preuve. Sinon, vous rendez bien compte que ça se saurait. On les aurait pris tout de suite. Ça serait bien plus facile. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Alors, le vaccin fabriqué en dilution homéopathique, c'est encore plus grave. Parce que là, on dit qu'on a vacciné contre le tétanos si en diluant le vaccin. Et la quantité de vaccin qui est dans le produit commercial habituel, est choisi pour être bien toléré et en même temps efficace. Si vous commencez à le diluer 100 fois, 1000 fois, évidemment, il n'y a plus rien. Et vous n'avez pas de réponse. Vous avez peut-être un certificat de vaccination, mais vous n'êtes pas protégé. J'espère que ça n'est plus fait. Ça a été fait à une époque. C'était baptisé vaccin homéopathique. Je pense que les vaccins homéopathiques ne sont plus ceux-là, mais il en va du risque. Et il faut bien que les personnes sachent qu'il y a un risque. De ne pas penser que les maladies infectieuses n'existent pas. Si elles ne sont pas protégées, elles ont un risque entier. Alors, on n'a peut-être pas de poliomyélite en France encore, espérons. Bon, quoique c'est arrivé en Hollande il y a quelques années, hein, chez des non-vaccinés. Mais dès qu'elles sortent du territoire et qu'elles vont se promener dans des lieux où il y a encore de la poliomyélite, je parle de l'Inde, je parle de certaines régions encore africaines, hein, il y a encore quelques régions, malheureusement, où la poliomyélite est repartie, elles ne sont pas protégées. Et ça, c'est le risque. C'est un exemple que je prends. On peut en prendre d'autres. Le tétanos, c'est un risque énorme.
Eh bien, je vous remercie, Pierre Béguet, de nous avoir donné tous ces détails pour cette émission Focus sur Canal Académie. Et puis, je l'espère, à bientôt pour de prochaines émissions.